Bienvenue dans le débat, notre espace d'échange intellectuel. Aujourd'hui, on se penche sur une transition politique majeure, la transition vertigineuse du Népal, en juillet 2008.
Tout à fait. Une période vraiment fascinante.
Exactement. Parce que, quand on restaure un édifice séculaire, on ne peut pas simplement abattre le pilier central en espérant que le toit tienne tout seul. Et ce pilier, c'était la dynastie des Shahs, un régime vieux de 240 ans. Le roi Gyanendra venait de quitter le palais et la question épineuse, c'était par quoi remplacer ce trône.
Et c'est précisément là que l'élection de Ram Baran Yadav à la présidence entre en jeu. La question centrale qu'on va débattre aujourd'hui, c'est de savoir si ce choix était un triomphe de l'équilibre démocratique face à l'hégémonie de l'ancienne guérilla maoïste.
Ou bien, et je crois que c'est votre position, si c'était l'acte de naissance des dysfonctionnements chroniques de la jeune République. Donc je vais défendre cette élection comme un rempart démocratique essentiel.
Et moi, je l'analyserais plutôt comme une fracture institutionnelle. Une fracture qui a, en fait, paralysé le pays par la suite.
Très bien. Pour moi, le choix de Yadav, c'est presque un chef-d'œuvre d'ingénierie politique. Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Les maoïstes sortaient de 10 ans de guérilla et ils venaient tout juste d'arriver en tête des élections d'avril. S'ils avaient raflé le poste de Premier ministre et la présidence, l'équilibre des pouvoirs aurait volé en éclats.
D'accord, mais...
L'alliance entre le Congrès népalais et les marxistes-léninistes pour élire Yadav, ça a sauvé le pluralisme. Et puis, n'oublions pas le symbole. Yadav est un médecin issu de la minorité Madhesi, originaire des plaines du Terai.
Ah, attendez, il faut expliquer à nos auditeurs pourquoi ce détail est si crucial. Historiquement, l'État népalais était totalement monopolisé par les élites des collines et de la vallée de Katmandou.
Exactement. Élire un Madhesi, c'était briser ce monopole d'un seul coup. C'était l'intégration d'une population qui était historiquement tenue à l'écart du sommet de l'État.
Alors, c'est un très beau symbole, je vous l'accorde, mais à quel prix institutionnel au juste? Vous parlez de chef-d'œuvre d'ingénierie, mais moi je vois plutôt une alliance de circonstances, dictée par la peur.
La peur, carrément?
Oui, la peur. Regardez, le premier tour de cette élection, c'était un vrai fiasco. 283 voix pour Yadav, 270 pour le candidat maoïste. Personne n'avait la majorité. Cette méfiance viscérale installée dès le départ a enlisé le pays dans une valse de gouvernement éphémère. Ça a même retardé l'adoption de la Constitution jusqu'en 2015.
Je comprends que nos auditeurs pourraient penser que bloquer à 283 voix, c'est un échec. Mais l'Assemblée constituante et ses 594 membres faisaient simplement leur travail.
Vous trouvez ?
Bien sûr. Elle exigeait un second tour pour dégager une majorité incontestable de 308 voix. Ce n'est pas un blocage, c'est juste la mécanique normale pour asseoir une vraie légitimité démocratique.
Je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture purement procédurale. Si on regarde la mécanique politique en coulisses, on comprend que c'était un sabotage pur et simple.
Un sabotage, le mot est fort.
Mais comment expliquez-vous que le même jour, cette même assemblée ait élu le vice-président Paramananda Jha avec 305 voix dès le premier tour, et ce, sans aucune difficulté.
C'est vrai que le contraste entre les deux votes est particulièrement frappant, je vous l'accorde.
Il est frappant parce que les partis traditionnels se sont mis d'accord sur le vice-président. Mais pour la présidence, ils ont délibérément bloqué la machine. Le but n'était pas de trouver un consensus républicain, non. C'était de stopper net la dynamique des élections d'avril remportées par les maoïstes.
Ouais.
Ils ont tordu le bras des institutions, en fait, pour barrer la route à l'ancienne guérilla.
Mais il fallait bien tordre ce bras. Regardez ce qui se passe à peine un an plus tard lors de la crise de mai 2009.
Ah, la crise avec l'armée.
Voilà. Le premier ministre maoïste Prachanda décide unilatéralement de limoger le chef d'état-major de l'armée. Le président Yadav s'y oppose fermement. J'aime bien voir cette jeune république comme un patient qui subit une grève d'organes.
L'analogie est intéressante.
Le corps, c'est l'État népalais. Le nouvel organe, c'est cette présidence naissante. Mais l'influence de l'ancienne guérilla agissait comme des anticorps agressifs qui essayaient de rejeter l'équilibre démocratique en politisant l'armée. Yadav a été l'immunosuppresseur qui a sauvé la greffe.
Alors, l'image de la greffe est très parlante, mais le problème, c'est que ce nouvel organe a muté. Il s'est mis à attaquer le reste du corps. La constitution provisoire était pourtant limpide sur ce point.
Limpide, c'est vite dit.
Si, le rôle du président devait être strictement protocolaire. En refusant ce limogeage et en poussant de facto Prachanda à la démission, Yadav s'est transformé en arbitre politique. il s'est arrogé des pouvoirs exécutifs qu'il n'avait tout simplement pas.
Mais c'était pour éviter le pire.
C'est précisément cette transgression qui a créé une instabilité chronique. Une instabilité qui, ironiquement, nourrit aujourd'hui la nostalgie de la couronne dans certaines régions. Je suis convaincu que c'était une erreur fatale.
Je saisis bien votre critique sur l'interprétation stricte des textes. Mais je reste convaincu que, face au risque de voir une armée nationale confisquée par une faction, Yadav a incarné une présidence courageuse. Il a maintenu la nation unie quand elle risquait de s'effondrer.
Et pour ma part, je retiens surtout que cette manœuvre a dévoyé le mandat originel de l'Assemblée. Au lieu de bâtir sur la dynamique populaire, on a transformé le Népal en un champ de bataille institutionnel perpétuel.
Bon, une chose est sûre, et je crois que nous sommes d'accord là-dessus, quand on visite le palais Narayaniti aujourd'hui, qui est entièrement transformé en musée,
ouais.
On sent bien que la monarchie ne reviendra sans doute jamais.
Tout à fait d'accord. Le trône n'est plus, mais le vide laissé par ce fameux pilier central reste atrocement difficile à combler.
C'est très juste. C'est donc à vous, chers auditeurs, de forger votre propre opinion sur ce scrutin fondateur. Le toit du Népal républicain tient toujours, mais la solidité de ses fondations continuera d'alimenter les débats. Merci de nous avoir écoutés.